Merci à Entrevue pour cette invitation. Je suis content effectivement qu'on puisse à nouveau s'entretenir publiquement avec Jean-François, même si ça date déjà d'un peu de temps, nos entretiens. Alors, l'idée de cette soirée, c'est double finalement. C'est effectivement, on l'a intitulé avec Hugo Pradel, qui doit être quelque part là. On s'est entendu il y a quelque temps en disant, bon voilà, on va chercher un titre pour cette soirée autour de 591 et du supplément finalement de 591 que j'ai consacré à Jean-François. Et on a feuilleté donc le dernier numéro, le hors-série consacré à la performance, et on est tombé sur cette phrase, bon, puisque je suis quand même un peu prof de philo, donc ce que peut un corps ou ce que peut une revue, donc ça vient de Spinoza, donc Spinoza nous a été bien utile pour intituler cette soirée, donc ce que peut une revue, et en l'occurrence 591. Et bon, voilà, ça a été le point de départ pour entrer dans cette discussion, dans cette conversation qu'on voulait initier tous les deux avec Jean-François. Alors, ce que peut une revue, bon, alors 591, on va l'évoquer, puis après, on passera plus précisément sur le petit supplément que vous avez sous les yeux, que vous connaissez peut-être sûrement pas encore, hein, mais donc vous pourrez feuilleter évidemment. Alors 591, c'est une revue qui date depuis déjà un certain temps, hein, finalement. Moi, je n'ai pas les tout premiers numéros qui ont été publiés par Red Fox Press, hein, si je ne m'abuse, c'est ça ?
Absolument, absolument.
Et puis après, alors il y a des personnes que je voulais quand même remercier parce qu'on les a pas tout de suite remerciées. Après, la revue a été diffusée évidemment par les presses du réel et l'ADLMN. Et ensuite, quelqu'un qu'on aurait pu inviter, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, c'est Christian Desaguliers, qui a assumé donc la co-direction et l'édition sous le label Terracol, hein, c'est ça ?
Je peux intervenir ?
Jean-François, oui. Je ne connais pas toute l'histoire, donc je vous laisse.
L'intérêt, l'important, c'était la revue. Et pas, donc la revue, il fallait qu'elle tienne. J'ai toujours voulu qu'elle tienne. Je l'ai commencé en 2015. Et donc, je l'ai commencé à Red Fox Press, qui est un éditeur, un petit éditeur irlandais qui est tout à fait remarquable, mais ça n'allait pas, là, la cadence n'allait pas, ne me convenait pas. Alors ensuite, il y a eu une cassure, et là, j'ai fait le numéro suivant avec Jacques Demarque, avec bien des difficultés, pas à cause de Jacques Demarque, mais il y avait eu un autre personnage, s'appelle Laurent Covette, qui avait voulu s'en occuper, puis m'avait laissé au milieu du guet. Et donc, grâce à Jacques Demarque, on a pu reprendre donc, ce numéro. Donc, c'est déjà une autre personne, déjà.
D'accord. Alors,
ensuite, c'était là, toujours soutenu par Jacques Donguy, qui est l'association ADLMN, avec lequel on fait pas mal de choses.
De livres, oui, bien sûr.
Pas mal de choses, considérablement de choses.
Oui.
Et après, c'est ça. Après, Jacques Demarque a dû s'occuper de TXT qui repartait, donc il ne pouvait pas m'aider plus. Et après, j'ai fait avec
Christian
Desaguliers, c'est ça. Et ensuite avec Yann Sarah, voilà. Alors,
d'accord. Voilà,
donc c'est. Il y a eu quand même pas mal de personnages qui se sont introduits comme ça, et parce que j'aime bien toujours travailler en collectif, tout en surveillant un peu la chose. Alors je suis arrivé à sortir comme ça la revue chaque fois en changeant un peu d'éditeur de l'un à l'autre, etc., etc. Alors souvent, la plupart du temps, c'est diffusé par les presses du réel grâce à Raphaël Brobst qui dirige les presses du réel. Voilà.
Donc on a dans l'assistance déjà deux coéquipiers de 591, ce qui est déjà pas mal sur presque. Ben donc il y en a quatre essentiels, si je comprends bien, et avec Red Fox Press au départ, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc on en est. Alors le numéro actuel, enfin le dernier numéro, c'est 591. Donc effectivement, j'y reviendrai. C'est Johan Sarat qui a été le co-éditeur, c'est invité pour ce numéro, un numéro qui est consacré entièrement à la question de la performance. C'est ça, peut-être vous pouvez. Oui, on peut.
D'abord, pourquoi j'ai choisi ce titre ? Parce que j'avais fait une revue avant, encore avec une personne qui était avec Arthur Hubschmidt en partie. Ah, et...
On n'entend pas Jean-François. Ah,
j'avais fait une revue avant. J'avais fait une revue avant qui s'appelait L'humidité dans les années 70. Il y avait peu de revues à ce moment-là. Donc c'était. Et puis aujourd'hui, il y a énormément de revues. Et quand on se crée une histoire, on se crée toujours des. On ne peut pas se créer une histoire sans se créer des, se construire sur des ancêtres. Donc cela, ça s'est construit sur l'avant-garde. Et l'avant-garde, c'est ce qui s'est passé à partir de 1909 et le manifeste du futuriste de Marinetti. Donc là, les choses avaient changé beaucoup depuis l'humidité et il fallait que je me réintroduise à l'intérieur d'une histoire de l'avant-garde parce qu'aujourd'hui, les revues, il y en a considérablement, il y en a certainement d'excellentes, mais ce n'était pas mon projet. Mon projet était de rester dans la même lignée d'une tendance qu'on appelle l'avant-garde qui est quasiment finie et qui correspondra, à mon sens, à ce qui a été à un moment le romantisme ou l'art baroque. Donc c'est des périodes comme ça. Et moi, pour m'incruster là-dedans, ayant vu la fameuse revue de Picabia, je me suis dit, bon, je vais chercher pour bien montrer que c'est à la suite de quelque chose et non pas quelque chose qui se veut fondateur ou précédent, puisque l'humidité avait fait ce rôle-là. C'est pour ça que j'ai choisi. Donc, alors qu'il y a eu, évidemment 291, chacun connaît Stiglitz et Duchamp. Après, donc, la fameuse cette revue très scandaleuse de Picabia qui s'appelait 391. Et il y a eu, j'ai appris que après la guerre, il y a eu une revue 491 qui était aussi sortie, un seul numéro. Alors qu'il ne restait plus qu'à faire 591. Voilà l'apparition du chiffre 591.
Oui, c'est vrai. Pour revenir peut-être un instant. Sur l'histoire de l'humidité, alors, auquel 591 a consacré aussi un supplément qu'on a ramené pour l'occasion. Vous connaissez, vous voudrez éventuellement le refeuilleter. Donc, il y a eu une exposition il y a peu de temps dans une galerie de Paris qui s'appelle l'Enseigne des Oudins, où effectivement l'humidité, donc cette revue qui a couru entre 1970 et 1978, qui a été réédité justement par les éditions Aldante il y a quelques années. Donc cette revue, on a pu la revoir. Et bon, j'avais fait un petit texte à l'occasion de cette exposition qui m'a moins frappé, parce que bon, je connaissais évidemment l'humidité grâce à des exemplaires qu'on m'avait prêtés à l'époque, grâce à Arthur Hubschmidt, qui est ici présent aussi, qui m'avait permis de photocopier l'humidité à l'époque, parce que c'est le premier contact qu'on a eu tous les deux. Moi, là, finalement, c'est à travers les surréalistes de la fin que j'ai pu rencontrer qu'on m'a parlé de l'humidité. On m'a parlé de l'humidité parce que bon, voilà, il y a eu des contacts entre les surréalistes justement de la dernière vague et puis vous, Jean-François, donc à un moment à travers une revue, justement la revue Coupure, et du coup il y a eu un passage qui s'est fait, et puis pour moi ça a effectivement été un moment important puisque j'ai pu passer à autre chose que le simple surréalisme, disons. Et quand j'ai revu quand j'ai vu exposer l'humidité, ce que j'avais jamais évidemment eu l'occasion de voir, ça a été finalement important parce que la connaissant comme livre ou comme revue comme ça, j'avais pas mesuré à quel point elle avait été utile justement pour rendre visible un art qu'on ne voyait pas à l'époque dans les années 70. Et ça vous avez, est-ce que vous voulez reparler de ça, sur le fait que justement c'est un moment avec l'humidité où finalement les revues jouent un rôle qu'elles ne jouent peut-être plus aujourd'hui, justement, c'est-à-dire de rendre visible une sorte d'invisible de l'état de l'art qui se faisait, et que bah justement la revue L'humidité avait cette fonction-là d'être une sorte de comme ça d'intercesseur pour beaucoup d'artistes qui, pour certains, sont devenus très célèbres maintenant, mais qui n'avaient pas d'autres moyens, disons, d'être visible pour le public qui pouvait être touché par cette revue qui circulait beaucoup par les envois, etc. Donc comment vous pourriez reparler de cette période-là de l'humidité, de ce rapport à l'art qui se faisait, et pour revenir peut-être ensuite à la différence aujourd'hui, quoi, justement, ce rapport qu'ont les revues aujourd'hui avec l'art qui se fait. Peut-être d'abord donc l'humidité et son rapport avec l'art qui se faisait donc entre 70 et 78, si vous voulez bien.
Le, il me semble que le but premier pour un artiste, c'est de enfin, selon le principe de Mallarmé, tout doit aboutir à un livre. C'est maintenant, on pourrait dire, tout doit être encodé. C'est peut-être le but du monde, c'est d'un jour d'être transformé en codage. Mais plus simplement, un artiste n'est pas quelqu'un qui fait le rôle de l'artiste. C'est assez différent. Il y a très peu d'artistes et beaucoup de gens qui font le rôle de l'artiste. Et c'est d'être le sorte de reflet, une sorte de miroir des limbes de son temps. C'est-à-dire de montrer comment le monde change. Dada a montré très bien comment le monde changeait. L'effet de la guerre 14 a fait qu'il fallait dire ces épouvantables choses d'une autre manière. Donc, ce n'était pas que deux de leur part, parce que j'ai trouvé, là, en lisant Ségalène dans le volume de la Pléiade, un passage dans son journal où il dit déjà, il était à San Francisco et ahuri devant le fourmillement de cette ville, il dit il faudrait couper des petits morceaux du roman Kim, c'est un roman de Kipling, et éparpiller ça pour faire un texte. Donc, c'est de 1904. Donc déjà, à partir du début du XXe siècle, il y a une question qui se pose, comment représenter le monde. Il n'y a plus les moyens de Flaubert ou des grands romanciers se terminent. Et là, c'était à partir de 70, vous voyez que c'est la fin de l'industrialisation. Donc, c'est pas un désastre, mais c'est un immense changement. Et donc, l'humidité est faite avec des moyens extrêmement pauvres à ce moment-là. Et les gens qui reflétaient leur monde, je pense, c'était beaucoup plus des personnes comme Vito Acconci, Boltanski et tout ça, qui étaient complètement inconnus à ce moment-là. Donc, l'intérêt est double. D'une part, on fait une revue, comme Zara le disait pour Dada, on fait une revue pour connaître des gens et se faire des amis, et d'autre part, pour être montré vraiment le reflet du monde, et non pas être dans la copie de quelque chose qui cherche à se perpétrer, comme le roman contemporain, par exemple, qui ne correspond absolument plus à la réalité. Ça n'empêche pas que ça fait partie de ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent l'entertainment, dont je raffole, pour me distraire, mais c'est tout. Et là, il ne s'agit pas de distraction, il s'agit vraiment de tourment, pour ainsi dire. Et donc l'humidité, avec beaucoup de chance, eh bien, le temps a fait que ces gens que j'avais vus, ça s'est révélé que c'était ceux qui effectivement disaient le monde de cette période. Avec 591, c'est beaucoup plus sournois, parce qu'il y a eu déjà l'effondrement la fin de l'ère industrielle et puis une surcapitalisation qui est très, très singulière. Il ne s'agit pas de critiquer. La poésie ne consiste pas à critiquer et à aboyer. Ça, c'est la poésie de circonstance. Elle consiste à dire les choses qui se passent à ce moment-là, en ce moment. Donc, c'est pour ça que la poésie de Dada était très fragmentaire, parce qu'il y avait la fin de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a eu l'avant-garde, pour ainsi dire. Donc, dans 591, le système, c'était de reprendre cette idée et de trouver des gens. Et ces gens, je ne sais pas s'ils ne sont pas encore connus. J'espère en avoir trouvé deux ou trois qui sont venus et où je suis allé draguer, pour ainsi dire. Dans ce système-là. Mais je ne suis pas du tout sûr, comme je n'étais pas sûr de moi en faisant l'humidité, je ne suis pas du tout sûr du résultat final. Et étant donné mon grand âge, je ne le saurais pas. Mais c'est ça, au départ, une revue, ça doit consister à chercher à trouver des lucioles, en quelque sorte. Et donc, quelque chose qui brille un peu dans le noir. Alors, ce n'est pas du tout une revue pour... les revues pour se faire valoir, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Puis alors, les revues, il y a beaucoup de revues sur Napoléon, sur je ne sais pas quoi, sur les boulons, sur tout ce qu'on veut. Ça, c'est autre chose. C'est une sorte d'anthologie, pour ainsi dire. Des trucs souvent universitaires et souvent faits pour justifier un salaire mérité. Mais ce n'est pas du tout le but d'une revue d'avant-garde.
Et alors, pourquoi ça s'impose à un moment de faire un numéro où finalement la performance, ça s'est fait comment? C'est par la rencontre? C'est Yohann Soara?
Non, là, c'était l'idée de redresser la barre. Parce que la performance, qui est une très mauvaise idée, était au départ l'idée de... la performance, c'était l'idée, au départ, de quelqu'un qui, avec le happening, c'est de... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il s'agissait, dans les années 70, il s'agissait d'amener ce que j'avais cherché à faire, d'amener la littérature et la poésie dans les galeries. Bon, eh ben, maintenant, il s'agirait plutôt de les en sortir. Donc les gens, parce qu'il y a toujours les épigones qui arrivent. Et le danger des épigones, ce sont des gens qui pensent simplement à aujourd'hui, la plupart des performances sont des gens qui veulent simplement s'exhiber, montrer leur nombril devant un micro et qui pensent, c'est-à-dire qu'ils pensent plutôt comme des gens qui voudraient faire, je ne sais pas moi, de la musique, enfin des ratés qui feraient de la musique et qui la rateraient. Ils sont dans les variétés, ils ne sont pas du tout dans l'avant-garde. Alors, à un moment, comme moi j'avais vu les premières performances qui étaient assez intéressantes, je me suis dit qu'il faut redresser la barre et prendre des gens qui sont plus sérieux que ça. Alors, je pense que, par exemple, Johann Sarah, c'est quelqu'un qui fait des textes extrêmement compliqués et qui là-dessus, danse et a un rapport au corps avec ses textes. C'est quelqu'un qui ne plaisante pas tellement parce que, par exemple, il peut, il a fait avec quelqu'un d'autre, par détestation, par exemple, de Macron, il se fait tatouer sur le bras le mot Macron, puis après, il l'arrache avec un sparadrap et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tatouage. C'est complètement... C'est à la limite de la folie. Quand on voit le type, il est tout à fait raisonnable. Il tient un discours très, très raisonnable. Il y en a un autre, par exemple, qui fait aussi des performances à partir des pensées de Pascal. Il les démonte complètement. Et il montre que Pascal, en fait, pour lui, est une sorte de sophiste. Mais à travers une performance où il redit le texte à l'endroit, à l'envers, dans toutes les formes, pendant une quinzaine de minutes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant devant un micro. Autrement, les gens qui se mettent devant un micro en disant « Je suis un migrant, c'est très bien, mais ça n'a aucun rapport avec la poésie d'avant-garde. C'est se foutre de la gueule du monde. » Ce qu'ils veulent, c'est simplement se faire remarquer. C'est autre chose. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont 4 ans, à peu près, entre 4 et 12. Il y en a qui ont 12 ans, parfois plus évolués, et qui pensent, je ne sais pas, c'est des gens qui pensent que Céline, c'est une marque de chemise. Et moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Ils sont très nombreux. C'est pour ça que j'ai fait ce numéro avec quelques personnes qui me semblaient plus tourmentées par l'idée de performance et dont le but n'est pas simplement de se mettre nu devant un micro.
Alors justement, en regardant à nouveau le numéro, je me suis arrêté devant un des textes de Johann Sarah, donc qui ne pouvait pas, donc comme je l'ai dit en commençant, être parmi nous aujourd'hui. Et il y a un texte qui m'a frappé c'est celui qui s'intitule Cahier d'activité pour centre de loisirs performatifs. Et donc, il reprend un certain nombre de formules qui sont maintenant entrées dans l'histoire de l'art et de la performance, disons. Donc, il y a la recette Michel, donc Michel Journiac, faire un boudin à partir de sang d'un animateur, et tout ça qui entrerait dans comme manuel donc d'activité de centre de loisirs pour enfants. Donc, on leur demanderait aussi, il y a le jeu à Conchi, donc mordre des stylos Bic jusqu'à s'emplir la bouche d'encre pour suivre et mordre un animateur. Créer des œuvres en collant des feuilles sur les morsures pleines d'encre, glisser de la pâte à modeler dans les morsures épaisses pour former des sculptures d'avant-garde enfantines. Et donc, il y en a d'autres qui sont parfois effectivement particulièrement dangereuses.
C'est de l'ironie aussi.
Je me doute bien. Mais justement, est-ce que ce texte, donc ça continue comme ça, il y en a un très drôle qui est donc le cut Michel Onfray up et d'autres choses comme ça. Est-ce que on en est arrivé aussi à ce moment où, c'est en tout cas la réflexion que je me suis faite, à un moment où c'est la parodie qui peut-être serait le point, pas culminant, mais disons de cette lignée, puisque si on s'inscrit dans cette lignée finalement de l'avant-garde...
Mais les gens qui font ça ne le font pas d'une manière parodique. Parce que quand on parle de Vito Acconci, c'est grotesque maintenant, mais au départ, Vito Acconci, c'était quelqu'un qui était un poète concret. Donc il faisait des poèmes concrets, et il n'y arrivait pas. Donc il sortait de chez lui, il faisait le tour de son bloc à New York, c'est grand, un tour de bloc comme ça, dans le froid, puis il remontait chez lui, voilà, pour avoir les idées. Puis à force, un jour, il prenait toujours quelque chose dans un placard. Et donc il montait sur un tabouret, il faisait un mouvement avec les jambes, et il prenait la chose dans le placard. Et puis un jour, à force de faire ce mouvement, il a compris que c'est là que ça se passait, son histoire. C'est-à-dire que là où il pensait ou ne pensait pas, c'était en montant cette marche. À partir de ce moment-là, il a inventé cette sorte d'art corporel. Mmh. Ça, c'est très bien. En revanche, si j'ai soutenu Journiac parce qu'il a fait des choses tout à fait spectaculaires, l'idée du boudin, c'est une connerie épouvantable. Je dis simplement pourquoi. Parce qu'avoir l'idée de dire « je prends mon sang et je fais du boudin avec mon sang, et ainsi vous mangez mon corps », il y a un autre type avant, il y a 2000 ans, quand même un peu plus malin, hein, qui a trouvé l'idée que de la transsubstantiation, c'est-à-dire « tu prends pas du boudin, tu prends le petit machin, et ça, c'est mon sang ». C'est quand même un petit peu plus...
C'est un peu moins littéral, c'est vrai.
C'est mieux, ouais, c'est mieux, c'est quand même de la performance plus perfectionnée. Alors bon, ce pauvre Journiac, lamentable, à ce niveau-là. Je sais que mon ami Donguy va fulminer, il va m'étrangler ce soir, mais ça n'a aucune importance. Alors, l'idée, c'est justement, Yann Jarrah, parce que on avait, comme ça, il y avait eu, je crois, dans les années 70, une espèce, quand il y a eu la folie de la performance, quelqu'un qui avait dit qu'il avait posé un chewing-gum sous une table au floor. Il fallait trouver sous la table celui qui avait trouvé le chewing-gum. C'était une performance. Enfin, là, ça suffit.
Oui, c'est ça.
Il ne faut pas confondre quand même autour et alentour. Et là, vraiment, les gens confondent complètement. Je ne parle pas pour la poésie qui est alors devenue quelque chose de...
Et donc, là, il y a bien l'idée d'essayer de clarifier quand même.
Alors, j'ai essayé de clarifier. C'est pas sûr que ça ait clarifié parce que il y avait beaucoup à faire. C'était peut-être pas très clair. C'est difficile de clarifier. C'est sans donner dans le côté un peu répressif que j'ai là ce soir.
D'accord. Et donc, ce qui est difficile, c'est sûrement effectivement de tenir effectivement cette perspective qui est de s'inscrire dans cette lignée, donc effectivement 291 jusqu'à 591, tout en s'inscrivant dans une époque où on sait tout ce qui s'est passé déjà. Et est-ce qu'on cette recherche du nouveau, effectivement, elle est rendue plus difficile parce qu'il y a aussi toutes ces répétitions un peu qui finissent par être un peu nauséeuses de ce qui a déjà été fait, mais finalement répéter quelque chose dans d'autres circonstances, est-ce que c'est pas forcément toujours répété non plus, c'est-à-dire que il y a aussi peut-être des moments où reprendre un passé, ça peut comme disait Pound, oui. c'est refaire du nouveau, quoi, à partir
absolument.
De ce passé.
Oui, absolument, oui. Oui. Oui, il y a des gens comme ça au XVIe siècle qui ont très bien réussi le petit coup là, hein, je crois.
Je pense, oui, c'est ça. Donc on peut. Et donc, ça, cette perspective-là, elle est aussi finalement. Recevable quelque part d'une réactivation
c'est pour ça que je disais il faut toujours on ne se crée pas ex nihilo, il y a toujours on invente son histoire. Mm-hmm. Peut-être qu'aujourd'hui on a par exemple l'Occident a peut-être inventé son histoire à partir des Grecs, mais il fallait trouver quelque chose pour se constituer et donc tout le système de les revues que j'ai pu faire, c'est toujours en considérant qu'il y a eu d'abord une sorte de fondation faite par le bouleversement de la guerre 14 qui a fait passer, tout simplement ça a fait passer à des masses de morts inimaginables avant. Quoi. C'était quand même une grande le mot évolution ne convient pas, un grand pas en arrière pour l'humanité. Alors c'est important, une chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est différent. Le prochain numéro, par exemple, il y a des choses qui se passent sans qu'on s'en rende compte, et puis on les voit venir. Et le prochain numéro sera en partie, il y aura des choses sur les objets qui ont commencé à devenir caduques. Mm-hmm. Alors là, évidemment, les gens qui aiment la musique classique vont faire des bons, mais c'est pas grave. Alors, il y a eu des collections comme ça. Il y a des collectionneurs en Italie qui collectionnent des pianos qui sont trafiqués par des artistes. Alors, et puis, il y a beaucoup de choses. Moi, j'avais lancé ça avec les machines à écrire. Mmh. La machine à écrire, c'est la fin de quelque chose. C'est justement la fin de l'aspect mécanique le maximum que l'on peut faire d'une manière mécanique pour arriver à une perfection. Alors après, on passe au digital, ce dont Jacques Donguy est un grand spécialiste. Mais on ne peut pas aller plus loin. Et je pense que le piano, c'est aussi l'instrument de musique qui se veut absolu. Après, alors c'est curieux parce que les deux fonctionnent. On appuie sur des touches et c'est formidable. Et ces deux trucs que c'est pas, il n'y avait jamais vraiment de hasard, que des collectionneurs et des artistes, et moi-même, oui. Et souillés, pour ainsi dire. C'est, moi, les machines à écrire, en les dorant, en mettant des petits soldats oui. dessus, en expliquant, et d'autres personnes avec les pianos, on en avait fait aussi un avec Jacques Donguy, trois. Et c'est prouve que, brusquement, on désacralise la chose parce qu'elle n'a. Elle est en. C'est des diplodocus, donc on les empaille, et quand on les empaille, ils ne sont pas vraiment comme ils étaient. Mmh. Voilà. Et ça, ça montre quelque chose d'important. C'est-à-dire, ça, là, c'est intéressant parce que ça, tout le monde voit que c'est la fin de l'ère industrielle, vraiment, mmh. que ce n'est plus des mots, que c'est vraiment là.
Oui, il y a quelque chose qui est déposé dans un objet qui, en même temps, pour le moment, reste identifiable.
L'objet n'existe plus, c'est ouais. plus que son symbole.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant.
C'est un peu comme les fers qui étaient collectés.
Oui, très curieusement, par exemple, dans les années 70, il y avait un artiste qui s'appelait Thierry Agulot. Il faut repérer des personnages comme ça. C'était il collectionnait, il trouvait des fers partout, des fers à chaussures. Il y en avait partout. On mettait des fers à chaussures partout, partout, partout. Il faisait des tableaux avec des fers à chaussures. Alors vous me dites, c'est complètement idiot. Oui, c'est complètement idiot. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul fer à chaussures. Ça n'existe plus. Donc il a muséifié quelque chose avant que ça ne le soit. Car maintenant, les gens, et dans 50 ans, les gens regarderont ça et disent qu'est-ce que ça
oui,
servait à...
On n'arrivera plus à l'identifier.
Mais non,
enfin, déjà, ça devient, oui, ça devient problématique.
C'est curieux quoi, qu'un personnage que ça qui était un. Alors, il ne l'a peut-être pas fait exprès, ce n'est pas ça. Lui, pour lui, c'était chercher, soi-disant, les traces de Rimbaud au marché.
Mais d'accord.
On peut aussi faire des bêtises et puis que ça se révèle comme ça après. Comme ça,
Et donc, le prochain numéro de 591 a pour ambition de repérer des objets comme ça qui seraient des.
J'ai dit trois exemples, par exemple.
D'accord. Très bien. Alors, peut-être que. Et oui, il y avait une question que je voulais vous poser aussi. Pour repérer justement des gens comme Agulot, comme Yann Sara, comment. Alors aujourd'hui, les revues circulent peut-être un peu plus difficilement que peut-être à une époque antérieure. Je ne sais pas quel recul vous avez eu par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez contribué à diffuser plein de revues tout au cours de votre vie, que ce soit de l'humidité ou avant, etc. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est le même problème, d'autres problèmes, des difficultés nouvelles, où il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement. Comment vous voyez cette manière de diffuser les revues aujourd'hui, 591 et d'autres, il y a Célébrity Café, il y en a d'autres que vous animez. Comment vous voyez les choses vous par rapport à ce médium-là?
Je pense que c'est toujours pareil. Ce qui a changé, c'est leur
mode de production, de fabrication
le,
aussi.
Le mode de production a énormément baissé, le prix de fabrication a énormément baissé. Mais c'est une illusion parce que faire la maquette, ça a beaucoup augmenté. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Mais si on peut se débrouiller pour faire la maquette, alors oui, on est gagnant. Alors, il faut déjà mettre un petit peu d'huile de coude. Ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est faire des maquettes, et des belles maquettes. Je ne prétends pas que celles dont on s'occupe soient bien, mais je demande souvent l'assistance à des gens qui se connaissent bien en maquettes. Et quand Jacques Donguy, lui, demande à d'autres personnes pour la Célébrité Café, dont il est quand même le chef suprême, c'est pas, il demande, les maquettes sont remarquablement faites par une personne qui s'appelle Sarah Cassanti, mais c'est ça qui coûte horriblement cher. Après, la fabrication, c'est proportionnellement très peu cher. Avant c'était cher. Et surtout maintenant on peut faire de l'édition tendue, ce qui n'est parce que ça coûte pas plus cher d'avoir ce qu'on appelle un PDF, c'est-à-dire sur une clé une maquette grâce à tout au système de la digitalisation. Et vous pouvez commander un certain nombre d'exemplaires. C'est épuisé, vous en recommandez. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Avant, ça coûtait très, très cher de fabriquer. Donc, il fallait tirer au moins 2000 ou 3000 ou 5000 exemplaires pour que ça soit rentable. C'est absurde parce qu'aujourd'hui, les éditeurs sont imposés sur le stock. Mm-hmm. Alors, en fait, un éditeur intelligent, quasiment, devrait fonctionner à flux tendu. Donc, même un gros éditeur, je pense maintenant, je ne sais pas comment il fonctionne, mais je pense qu'il doit tirer dans les 1000 ou 1200 pour un roman. Et puis, c'est tout, pas plus. Après, c'est tellement facile, il suffit de téléphoner et c'est refait en 5 jours si on est pressé.
Mais je me rappelle de votre intervention, justement, quand on était au Centre Pompidou avec Jacques Donguy pour présenter justement la monographie que Jacques a consacrée à votre travail, et que vous aviez fait une intervention sur le plaisir que vous preniez à fabriquer justement les revues, plaisir que vous ne retrouviez plus forcément aujourd'hui, puisque
si,
à les fabriquer concrètement, enfin disons avec.
Moi je pense que c'est. Mais ça, alors là, il y a des gens. Je suis pas quelqu'un d'original. C'est Galène, ce qu'il faisait, ses maquettes de livres, c'est très connu, on les a. Ouais. C'est très. Moi je me souviens une chose qui m'avait beaucoup choqué. J'étais allé avec Pierre Bourjade. Et Pierre Bourjade avait un livre qui sortait dans la collection de Lambrix, c'était chez Gallimard. Et donc, il voulait aller à l'imprimerie. On l'avait envoyé, on se demande pourquoi. Mais enfin bon. Il va avec moi, là, comme ça, en voiture. Il va, et puis, alors après, il ressort de l'imprimerie. Il me dit : Ah, mais je ne savais pas, tous ces gens travaillent pour moi. Il n'avait aucune idée. C'était le bon Dieu qui faisait ça, comme ça. Mais non, il faut. Moi, je pense que quand on. Je ne sais pas si on est. C'est pas mettre la main à la pâte. Il faut voir comment ça se fait un livre, tout simplement. Et moi, j'ai toujours été complètement passionné par le livre, qui est aujourd'hui, c'est formidable parce que c'est un aboutissement. Jamais je n'aurais pensé qu'à la fin de ma vie, ce serait la fin du livre. Pour moi, c'était vraiment le truc absolu.
Oui.
C'est pas un échec, c'est formidable. C'est formidable que je vais disparaître en même temps que le livre. C'est génial.
C'était déjà un peu écrit dans Postscriptum, d'ailleurs, je crois. Que...
C'était déjà des 70.
Voilà,
j'en rêvais déjà. Mais voilà. Je ne suis pas très pressé, mais c'est un rêve.
Alors, peut-être que si je ne sais pas s'il y a des questions dans l'auditoire là sur 591, peut-être qu'on peut passer comme ça doucement vers le petit supplément. Donc, si vous voulez, enfin, je ne veux pas parler de moi, mais disons, je veux juste raconter un peu les circonstances qui ont conduit finalement à l'élaboration de ce numéro spécial donc de 591 que Jean-François a bien voulu accueillir, donc qui du coup est un numéro 14, et donc revenir un peu sur les raisons qui m'ont conduit à faire ce travail. Donc c'est pas, comme je le disais en commençant, c'est pas d'aujourd'hui qu'on discute ensemble, puisque comme l'a rappelé Yannick, c'est donc les premiers essais, disons, de réflexion autour du travail de Jean-François date des années 2000, je sais pas, 5, 6, je crois, quelque chose comme ça, dans la revue des revues. Et puis, au fil du temps, donc, j'ai quand même rendu compte d'un certain nombre des livres de Jean-François, que ce soit dans Action Poétique, dans Citodi, dans CCP, quand CCP existait effectivement comme revue régulière aussi, qui consacrait des chroniques qui sortaient finalement, justement. Et comme je l'ai dit aussi, effectivement, c'est Claude Courteau qui m'a le premier mis entre les mains un numéro de l'Humidité, où les maquettes étaient parfois... de l'Humidité, et de Coupure et après de l'Humidité, et les maquettes de Coupure n'étaient pas toujours d'une grande lisibilité, comme vous l'avez raconté. Fois, hein, parce que les surréalistes n'étaient pas forcément très au courant des moyens d'imprimer, donc il y a eu des tentatives parfois infructueuses, et donc tous ces petites miettes, à un moment j'ai essayé de les reprendre pour remettre un peu, non pas d'ordre, mais essayer de composer quelque chose donc qui rende compte finalement de la lecture d'une presque une vingtaine d'années finalement à force de textes de Jean-François. Donc ça a donné ce qui est. Alors ce qui est le titre est c'est une formule finalement qui m'a donné le moyen justement de composer ce livre, parce que je cherchais une manière d'organiser un peu cette matière, et je l'ai trouvé justement dans les revues. C'est en fait une rubrique de l'Archibra qui s'appelait ce qui est ignoble, ce qui est jouissif, ce qui est incontestable, ce qui est donc et comme ça permettait de rendre compte d'un certain nombre de sujets, et cette manière de procéder avait été reprise aussi dans l'Humidité. Et j'ai trouvé un moment que c'était peut-être la meilleure manière de rendre compte justement de la pluralité des points de vue qui s'offraient à moi lorsque je lisais vos livres. Et donc j'en ai parlé un jour en me disant, voilà, je crois avoir trouvé un titre. Et à partir du moment où j'avais trouvé ce titre, assez péremptoire et en même temps qui était très ouvert, ça m'a débloqué pour, disons, organiser finalement la matière qui composait ce petit volume. Donc ça s'est fait comme ça. Et alors la première des entrées, puisque ça se voulait un livre où on pouvait circuler finalement un peu n'importe comment, pas forcément commencer par le début, parce qu'il y a tout un ensemble de petits dispositifs qui permettent en principe de passer d'une entrée à une autre. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait clair tel que c'est composé là. Mais la première des entrées, ça a été aussi, en revenant aux livres qui me viennent tout de suite quand je pense à vous, c'est-à-dire d'abord Postscriptum, Roussel et SARL, Japon le retour, le livre sur Pang provisoirement posthume, etc. Enfin, c'est ceux qui me viennent quand même très très vite à l'esprit quand je pense aux livres que j'ai lus et relus justement pour l'occasion. Et en reprenant Postscriptum, j'ai vu qu'il y avait toute une partie qui était consacrée à Noé. Alors évidemment avec un regard très particulier, donc Noé, l'arche de Noé, on connaît son histoire bien sûr, et tout ça nous ramenait aussi, puisque Noé est quand même un spécialiste en quelque sorte de l'humidité, puisqu'il a quand même passé un certain temps sur les eaux, et 40 jours, hein, dit donc le texte en question, bien connu. Donc au début, je me suis dit, tiens, je vais écrire pendant 40 jours, régulièrement. Évidemment, je n'ai absolument pas réussi à faire ça, puisque bon, il faut, je ne sais pas, peut-être c'était un peu ambitieux. Donc les règles que je me suis données, j'en ai gardé qu'une. C'est finalement celle du ce qui est qui a été assez commode pour ranger un peu la matière qui venait à moi au fil des lectures. Mais ça a commencé finalement bizarrement par cette histoire de Noé qui m'a permis de tirer un fil, alors sûrement aussi un peu parodique, à travers bon, un certain nombre de lectures et de relectures, puisque bon, je ne voulais pas que ce soit non plus un livre pesant, je ne voulais pas écrire dans un sens un peu, disons, universitaire, pour aller vite, même si c'est une écriture qui me connaît aussi éventuellement, si c'est nécessaire. Et puis évidemment, c'était aussi un clin d'œil à un poème, qui a pris la forme d'une affiche, la poésie est ceci, la poésie est cela, donc qui était donc une manière de renouveler cette question de la liste, avec évidemment toujours un sourire en coin. Alors donc là, ça a été le point de départ de ce petit livre. Donc à la fois, donc c'est pour ça que ça commence sur ce qui est noachique, hein, donc qui renvoie effectivement à notre ami Noé, et puis ça continue avec ce qui est à temps. Donc ce qui était à temps, c'était qu'il était quand même temps de faire ce livre, parce que le projet, en fait, il avait été formulé il y a déjà longtemps. On s'était dit que peut-être les éditions Jean-Michel Place pourraient le faire, mais entre temps, c'était plus possible, etc. Et puis ce qui était lunaire, anti-lunaire, ce qui était aussi du psychiatrisme, puisque le perroquet de Barthes m'avait beaucoup frappé aussi, enfin c'est une des œuvres de Jean-François qui a un toucan en fait, avec au pied de, donc je l'ai jamais vu en vrai, mais je l'ai vu en photo, je sais pas qui le possède, ce toucan, voilà. Ah, peut-être, donc c'est un toucan avec au pied, donc qui est sur une branche d'arbre comme ça, et puis avec à ses pieds donc un ensemble de lettres, et donc qui était dédié à Roland Barthes, donc qui m'a longtemps un peu amusé effectivement, donc j'avais envie de lui consacrer aussi un petit texte, et c'est comme ça que les poèmes de ceux de la nuit de Nara, enfin un certain nombre de textes qui m'ont évidemment marqué comme d'autres lecteurs, tout le rapport à Gabriel D'Annunzio aussi, qu'on retrouve dans justement l'édition qu'on l'a remise dans le livre à la fin, donc à l'école des lettres au Seuil, donc en 96, donc de ces fragments de Nocturne qui sont, que vous avez traduits, donc c'est C'est l'ensemble du texte avec donc une préface, je crois, c'est le statut de préface. Hein. Postface, voilà, j'avais un doute.
C'est voilà. C'est...
Peut-être revenir sur ce. Non, pas du tout. Non. Et donc, en tout cas, ça fait partie des livres dont j'avais envie aussi particulièrement de parler et sur lesquels j'ai fini parce que j'avais vraiment envie de finir par. Parce que c'est cette postface, finalement, c'est 17 façons de rater un livre sur D'Annunzio. Donc je voulais absolument, c'était la seule chose que je savais aussi pertinemment, je voulais finir sur rater. Et donc j'ai essayé de rater à peu près, j'ai pas aussi bien raté, mais j'ai essayé de finir en ratant et en reprenant ce texte sur D'Annunzio qui fait partie aussi des textes que j'aime beaucoup, quoi, tout simplement. Donc voilà un peu la manière dont s'est fait un peu disons cet ensemble fragmentaire qui évidemment qui pourrait être continué et prolongé de mille façons, mais qui à un moment donc souhaite rendre compte finalement d'une lecture au long cours et revenir sur quelques points qui ont été particulièrement saillants à mes yeux, évidemment, c'est très subjectif tout cela, mais qui essaie de sortir finalement de simplement un regard historique ou simplement, disons, de constat objectif et qui entrait un peu plus dans cette lecture avec, disons, les quelques anecdotes qui font que bon un auteur, si je puis dire, c'est le cas de le dire là, avec un petit et un grand A, devient familier quoi à un moment. Donc voilà ce que je peux peut-être dire sur ce texte. Est-ce que je vous passe la parole, Jean-François, ou peut-être, je sais pas, parce que vous êtes le premier des lecteurs, mais bon, c'est pas évident. Vous êtes aussi le sujet.
Vous vouliez finir sur un échec.
Voilà. Donc.
C'est raté, c'est réussi.
Bon voilà. Et donc, peut-être pour finir, avant que peut-être des questions s'imposent dans l'auditoire, je voulais juste lire la fin parce que je ne me suis pas... Donc, pour être sûr de bien rater avec Jean-François, donc j'ai repris exactement ces mots, un peu avant que je ne sache évidemment qu'on allait se retrouver ce soir, donc en évoquant donc D'Annunzio, donc le fameux propriétaire du Vittoriale, et j'ai repris donc une partie de la postface de Jean-François en changeant très peu de choses puisque ça convenait parfaitement pour finir, donc je finissais ainsi: il y a si peu de mots à changer pour que cela dise ce qui est à présent, et donc je citais Jean-François avec un petit changement. Et puis, alors que je traversais la rue pour aller justement faire une conférence sur Jean-François Bory, je vis le reflet dans la vitrine en face d'un homme de 50 ans qui traversait la rue. C'était moi. Je me trouvais tout ahuri devant ce moi-même d'être arrivé à cet âge et d'avoir réussi entre-temps à ne pas mourir de faim, ni d'épouvante, ni de cette maladie héréditaire qu'est la vie. Donc, voilà. Ça, c'est... donc. La fin de votre texte sur D'Annunzio. Alors, est-ce que peut-être, je sais pas, on peut ouvrir un peu à la discussion, aux interventions, peut-être des coéquipiers de 591, peut-être leur prise de parole s'impose peut-être à cette occasion, si l'envie s'en fait ressentir, hein, je sais pas.
Sur ce numéro spécial, c'est un numéro sur l'humidité, l'exposition d'humidité, exposition dans laquelle j'ai été très impliqué, évidemment, puisque co-commissaire, évidemment. Et donc la maquette est de Sarah Cassanti. On a réussi à faire quelque chose d'assez, disons, intéressant, enfin, au niveau du contenu, j'espère. Voilà. Et. Avec quelques documents rares, notamment Irène Schwartz, par exemple. Enfin bon,
qui
voilà.
Est très rare.
Mais tu pourrais feuilleter pour montrer un peu l'intérieur, pour montrer un peu.
Voilà. Donc effectivement, il y a énormément de documents qu'on ne connaissait pas
de la rue, dont effectivement la performance d'Irène Schwartz avec son double en chocolat, donc consommable après destruction, sur lequel on reviendra bientôt peut-être, j'espère. Ah bah oui.
Je crois que c'est vous qui dites, ou Jean-François qui dit dans ce livre que l'avant-garde c'est fini, comme tout le reste, d'ailleurs tout est fini, mais c'est toi qui le dis. Tu confirmes. Mais alors, de quoi tu t'occupes? Tout est fini. Et pourquoi tu fais encore une revue sur ce qui est fini?
Là, je vais te répondre comme un véritable membre du gouvernement actuel. C'est une bonne question. Pourquoi cette méchanceté gratuite, en plus, quasiment?
Parce que je me pose la même question à mon sujet. Et moi, j'ai trouvé une réponse. Bah, son leitmotiv, en avant comme avant.
En avant comme avant, mais oui, bien sûr.
Mais j'espérais je sais pas moi, une petite virgule baroque dont tu as l'habitude, et j'espérais que je pouvais l'appliquer à moi.
Mais tu as raison, mais je ne comprends pas pourquoi brusquement un ami de 50 ans se dresse comme un serpent, comme ça.
Rappelle-toi que Balladur a fait exactement la même chose à son ami Chirac, mais c'est Chirac qui est devenu président. Donc.
Ah, bon. Non, mais ça, c'est. Bon, c'est gratuit, c'est gratuit. Mais bon, tant pis. Non, oui.
Jacques, un petit. Sur 591, Jacques Demarque.
A dit quelque chose, qui t'occupe de TX et Pijac.
Non, non, je ne m'occupe pas de. Je ne m'occupe plus de rien. J'ai fini, moi. Mais le. Enfin, j'ai fini de m'occuper. Non, je réagis à ce que disait Jérôme à propos du livre sur D'Annunzio. Moi aussi, j'adore ce livre. Pour une raison, c'est qu'en fait, je déteste D'Annunzio. Et que quand c'est Jean-François qui en parle, je ne trouve pas ce qu'il en dit, même si de temps en temps... Je crois qu'il aime D'Annunzio, lui. Enfin, j'ai cru comprendre ça. Mais la façon dont il parle de son ratage est tellement passionnante, juste, et parce qu'au fond, sur D'Annunzio, je pense qu'on ne peut que rater un livre, ce n'est pas un bon sujet. Et donc, sur un mauvais sujet, il arrive à faire un très bon livre. Et c'est ça qui est... Et souvent, c'est le cas, d'ailleurs. Hein. Souvent, les bons livres sont sur des mauvais sujets.
C'est pas du petit lait là, parce que ça me semble, c'est pas du, je bois du petit lait là, c'est incroyable.
Donc tu es d'accord avec moi que c'est un mauvais sujet.
Mon avis.
Moi, j'ai pas le droit aussi.
Mais Jacques aussi voudrait parler de.
Oui, oui. Alors, donc le projet de Celebrity est un petit peu différent. Donc, d'abord le titre très bizarrement c'est sur une route entre Mombasa et Nairobi, donc au Kenya, et je vois une toute petite baraque parpaing, tôle ondulée, Celebrity Café. Alors comme à mon habitude, je note ça sur un petit carnet Rodia, et donc j'ai proposé le titre. Voilà, donc le comité de rédaction comporte moi-même, Jean-François, et Sarah Cassanti. Je tenais beaucoup à ce qu'il y ait Sarah Cassanti, parce que c'est une autre génération, c'est une femme, elle est plus jeune. En dehors de ses qualités de maquettiste, maintenant elle est plutôt performeuse, c'est-à-dire elle a travaillé, elle a exposé au générateur à Gentilly, et donc elle fait vraiment un travail de... Bon, elle a une formation très solide de maquettiste, mais pour en revenir au livre, le livre aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'était le livre au XIXe siècle. Le livre aujourd'hui, c'est une maquette faite avec des logiciels, et donc on a une beaucoup plus grande liberté, donc c'est un petit peu tout le discours que je tiens sur le passage d'une technologie à d'autres technologies, par exemple la poésie sonore, Henri Chopin, etc., n'aurait jamais été possible sans le magnétophone. mais on ne pense pas à la technologie et c'est un tort. Alors, même chose, Gutenberg, c'est une technologie, celle de l'imprimerie, née donc au XVe siècle, très bien, 1455, je crois, et ça a formaté vraiment tout le XIXe siècle. Et c'est ce que je montre dans le dernier livre. Bon, j'en ai apporté un exemplaire pour Arthur Smith, donc je le montre quand même. Voilà. Et c'est un petit peu ce à quoi j'étais confronté dans ce livre. Donc c'est un livre sur bon, la poésie numérique, et c'est sur la poésie numérique. Et le problème, c'est évidemment l'ordinateur portable qui devient grand public à partir des années 1985. Alors là aussi, c'est un formatage, mais avec... Donc, je rebondis sur cette histoire du livre, c'est-à-dire que le livre aujourd'hui, en tant qu'objet, ne ressemble absolument pas à ce qu'était le livre à l'époque de Flaubert, etc. Mais la technologie de Gutenberg a formaté, a véritablement, on ne pense pas en ligne, on pense évidemment par association, donc ces fameux neurones, etc. Donc l'idée d'écrire en ligne et de suivre une ligne de pensée est une idée à la fois merveilleuse pour ce que ça a donné, mais en même temps terrifiante. Et ce dont était bien conscient évidemment un Mallarmé à la fin de sa vie, qui a d'abord fait le coup de dé, qui ensuite a fait son projet du livre pour en sortir. Et même chose pour Rimbaud, le sonnet des voyelles, etc. etc. Et toutes les tentatives avec Charles Cros, etc. Donc, pour rebondir sur cette histoire d'avant-garde, je ne crois pas qu'on... L'avant-garde, c'est rien. C'est-à-dire que l'avant-garde, ça veut dire simplement qu'un artiste ou un écrivain, etc., comme le dit Ezra Pound, est comme l'antenne de la race. C'est-à-dire qu'il saisit son époque. Donc, bon, évidemment, ce qu'ont été les avant-gardes au début du XXe siècle, c'est tout simplement l'industrialisation. Les usines, le formatage. Entre parenthèses, le premier objet fabriqué en série, pour moi, c'est le livre de Gutenberg. C'est un objet fabriqué en série et ça a été le modèle de la société industrielle du XIXe siècle. Enfin, ça, c'est une aparté, une idée que j'ai, bon, voilà, développée. Mais donc, ce à quoi ont été confrontés les avant-gardistes, c'est tout simplement le fait qu'il y ait l'automobile, qu'il y ait l'industrie, qu'il y ait la fabrication en série, d'objets en série, etc. Et donc, voilà, simplement. Mais, sauf que, évidemment, à chaque époque, il y a de nouveaux changements, de nouveaux médias, mais on a tort de ne pas penser ces médias. C'est-à-dire que ces médias sont à... ce ne sont pas, comment dirais-je, ce ne sont pas les femmes de ménage. Et on pense très souvent, on passe par-dessus les médias pour dire, bon, il y a des précédents. Il y a quand même Walter Benjamin qui a commencé à réfléchir sur la photographie. Il y a eu évidemment McLuhan, etc. Donc, les choses bougent constamment. Et donc, il y a chaque fois... de nouveau...
Mais les revues restent.
Pardon ?
Les revues restent quand même.
Oui,
mais c'est quand même par la revue que...
On ne les fait plus de la même façon. Bah, Célébrité Café est une revue.
Bah oui, c'est ça.
Voilà, même chose. Voilà.
On leur donne juste des noms différents. Avant-garde, ça existe depuis toujours. Depuis qu'il y a des hommes, c'est évident. Puisqu'on fait des progrès technologiques et chaque technologie nouvelle... change l'esthétique et voilà, tu fais de la poésie électronique, enfin je ne sais pas comment tu l'appelles, lui il faisait encore de la poésie concrète, visuelle, les noms changent, mais à quoi tu tiens Jean-François? D'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ceci dit, ce n'est pas Gutenberg qui a inventé la ligne, hein. Ça date de... Les Grecs, déjà, simplement, ils écrivaient à la main, mais ils n'écrivaient pas comme lui, dans le genre zigzagant, etc., à partir de Mallarmé. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, il n'y a pas de...
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions, je ne sais pas, pour Jean-François sur la revue 591. On ferme les portes du zoo alors et on reste entre animaux de bonne compagnie. Voilà. Merci à tous.